pour avancer dans l'analyse donc, que nous proposions à la Commission des communautés européennes, nous avons voulu montrer que toutes les mesures collectives, générales et obligatoires, c'est ça, que toutes les mesures collectives, générales et obligatoires dans le domaine de l'organisation du travail avaient fait progresser l'égalité homme-femme. Et que, par contre, toutes les mesures dites de libre choix, c'est-à-dire où chaque personne individuellement doit choisir ce qu'elle va décider, avaient au contraire accru les inégalités hommes-femmes. Et puis, nous avons fait l'analyse des mesures d'aménagement qui étaient déjà disponibles en Belgique au cours de la crise. Et puis, nous avons proposé donc un cadre collectif avec une mesure individuelle à l'intérieur de ce cadre. Ça, c'est notre proposition. Je vais y arriver plus tard. Alors, dans les aménagements, nous avons analysé d'abord des aménagements, d'abord on a commencé par les mauvaises solutions, bien entendu les aménagements individualisés, du temps de travail par exemple, eh bien nous avons constaté que ce qui est le travail à temps partiel, le travail intérimaire, les contrats de travail à durée déterminée, le travail en noir, les horaires variables, etc. Et après notre recherche, on a encore installé en Belgique ce qu'on appelle l'interruption de carrière, c'est-à-dire que les travailleurs peuvent demander d'interrompre leur carrière. Ils peuvent demander, l'employeur peut accepter à condition de remplacer le travailleur par un chômeur. Il y a une allocation d'une dizaine de milliers de francs. Je m'excuse, je ne sais pas traduire tout de suite en francs suisses pour celui qui interrompt sa carrière. Et il y a un ensemble de sujets qui permettent d'interrompre sa carrière. Donc, il y a une mesure nouvelle qui permet d'interrompre d'une manière temporaire sa carrière, d'un an, deux ans, etc., et qui s'est trouvée massivement utilisée par les femmes au moment après qui ont des enfants. Enfin, massivement, en tout, pas massivement, mais 80 ou 90% des demandes, ce sont des femmes. Donc ça, c'était des mesures individualisées. Alors, dans le travail à temps partiel, je ne vais pas analyser ça maintenant parce que ça nous écarterait un peu. Nous avons montré exactement comment cette utilisation, le mécanisme du travail à temps partiel était discriminatoire. Et alors, chaque fois, à chacun de ces points, nous n'avons pas seulement analysé l'inégalité dans le travail, mais l'effet que ça avait sur le partage total, puisque c'était ça notre objectif. Alors, vous vous rendez bien compte que la difficulté de la méthode, c'est que nous devons essayer d'analyser quelque chose qui est très global et qui est un peu un cercle vicieux où tout tourne. Si on est égal dans le travail, est-ce qu'on est plus égal à la maison? Si on n'est pas égal à la maison, est-ce qu'on est moins égal dans le travail et dans la vie sociale? Donc, tout est dans tout. Et par conséquent, il fallait tout le temps tourner en rond et essayer d'intervenir tout le temps en montrant quels sont les éléments clés, si vous voulez, qui augmentent ou diminuent l'égalité, sans savoir si ce n'est pas une question de l'un est la cause et l'autre est l'effet. Ils tournent tout le temps en rond, si vous voulez. Et il est tout à fait évident que les femmes qui travaillent à temps partiel font autant de travail, assument autant le travail ménager que les femmes, par exemple, qui ne travaillent pas. Donc, le travail à temps partiel rend encore moins probable le partage du travail ménager que le travail à temps plein. Par conséquent, dire qu'on veut prendre le travail à temps partiel, ça veut presque dire indirectement, j'assume que c'est moi qui dois faire tout le travail ménager. À partir du moment où on veut une égalité du partage du travail ménager, il faut évidemment aussi avoir l'égalité de l'autre côté. Or, précisément, où on peut dire d'une certaine façon que l'inégalité est croissante entre les hommes et les femmes maintenant, c'est que si vous prenez l'hypothèse qui n'a jamais vraiment existé, enfin qui est dans nos têtes, que dans le temps, l'homme faisait 100% du travail professionnel et la femme 100% du travail ménager, et que l'homme ramenait 100% du salaire et que la femme utilisait 100% de ce salaire, eh bien à l'heure actuelle, les femmes dans l'ensemble des pays de la communauté, elles assument entre 60 et 70% du travail professionnel, du travail rémunéré, et elles continuent à assumer entre 75 et 80% du travail ménager. Donc, si vous voulez, dans le temps, il y avait 100 là et 100 là, mais maintenant, les femmes font 80-80, mais font une grosse partie du travail professionnel, mais elles gardent à peu près la totalité du travail ménager. Et c'est en ce sens-là qu'on peut considérer que l'inégalité globale des femmes, l'inégalité globale entre hommes et femmes est en train de s'accroître, contrairement à tout ce qu'on peut croire. Donc ça veut dire que sur le plan professionnel, éventuellement, elle diminuerait, mais globalement, elle s'accroît. Et certaines féministes américaines disent même que la pauvreté des femmes est en train d'être liée à ça, étant donné qu'on glisse tout petit à petit vers une société où les femmes assument seules l'économie de l'éducation des enfants. Donc ça veut dire que, comme il y a beaucoup de divorces et que beaucoup, les hommes payent rarement les pensions alimentaires pour les enfants, eh bien, on trouve maintenant entre 50 et 60% peut-être d'enfants, particulièrement aux États-Unis, qui ne sont entretenus économiquement que par leur mère. Donc, non seulement la charge économique, si vous voulez, l'homme serait en train de se distancer par rapport à l'investissement économique dans le ménage. Enfin, ici, je vais faire un détour. Donc, la réflexion sur le travail à temps partiel me paraît un point tout à fait clé de l'analyse de l'inégalité homme-femme, et notamment dans ce rapport entre le partage, parce qu'il est la manière dont les femmes expriment le plus maladroitement possible le fait que c'est elles qui doivent faire l'arbitrage entre le seul travail à temps partiel choisi d'ailleurs, hein, entre le travail ménager et le travail professionnel. Bon, donc de toute façon, nous avons pu montrer que toutes les formes librement choisies d'adaptation et d'aménagement du temps de travail entraînaient un choix de la part des femmes qui était un choix en rapport avec ce fameux arbitrage et qui était un choix qui les rendait plus inégales dans la vie professionnelle et qui augmentait leur charge, enfin qui faisait qu'elles assumaient le plus complètement leur charge du point de vue du travail ménager. Par contre, nous avons rencontré dans ces aménagements de temps quelque chose qui s'appelait autrefois le crédit d'heure et qui s'appelle le congé éducation et qui nous a fort frappé, parce que, alors que je viens de vous parler de l'interruption de carrière qui est utilisée largement par les femmes, mais qui est très mal couverte, très mal rémunérée quand elles quittent le travail donc pendant un an ou deux ans pour s'occuper de leurs enfants. Si un chômeur les remplace, elles reçoivent une dizaine de milliers de francs. Par contre, il y a quelque chose qui existe dans la législation belge et qui s'appelle le congé éducation et qui autrefois s'appelait le crédit d'heure. Je rappelle l'ancien mot parce que vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et cette forme, c'est une possibilité pour un travailleur de suivre une formation pendant son temps de travail. Il peut s'absenter. Dans l'ancienne législation, il pouvait s'absenter la première année 25% du temps des cours, puis 50%, etc., et puis la totalité de la dernière année. Maintenant, il peut s'absenter tout à fait et il est payé, son salaire est remplacé. Donc, des gens qui se forment eux-mêmes peuvent s'absenter, donc avoir une suspension de carrière, pas une suspension de carrière, enfin ils quittent le travail mais ils restent en contrat avec leur employeur, avec une rémunération complète quand c'est pour se former soi-même. Par contre, quand c'est pour éduquer ses enfants, on peut interrompre sa carrière, mais on ne reçoit qu'une somme très minime de compensation. Alors, cette discrimination entre les deux nous avait fort frappé, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, l'interruption de carrière est prise massivement par les femmes pour élever leurs enfants, et le congé éducation est pris massivement par les hommes pour se former eux-mêmes. Et ce congé éducation, qui paraissait une mesure tout à fait, enfin, contre laquelle les patrons ont beaucoup lutté, au fond, pour finir, ça ne les gêne plus tellement, il n'y a pas tellement de demandes, mais c'est une demande, quand elle est réalisée, enfin, la solution est extrême, socialement très généreuse, hein, puisque donc le travailleur peut s'absenter complètement et reçoit l'équivalent de son salaire antérieur. Donc il y avait, en fonction de l'utilisation probable du congé, une inégalité dans les ressources qu'on donnait sur ce congé. Vous comprenez bien ce que je veux dire, pourquoi nous étions très attentives à cette formule-là. Donc, si je me dis ce congé-là que j'organise, cette suspension de carrière que j'organise-là, ça va être les femmes, je donne très peu d'argent pour le faire. Si je me dis ça va être les hommes, je donne beaucoup d'argent pour le faire. Donc vous voyez que l'inégalité n'est pas liée non plus à l'utilité sociale du congé, parce qu'enfin on peut quand même considérer que quand nous élevons, nous quittons le travail pour élever nos enfants, ça a quand même autant de valeur que quand on quitte le travail pour se former soi-même. Donc c'est simplement la reconnaissance du fait qu'on pensait que ce seraient des hommes qui prendraient le congé, qui donnaient une couverture sociale beaucoup plus importante. Alors après, nous avons fait l'autre partie et nous avons examiné les effets de ce qui étaient les aménagements collectifs du temps de travail, c'est-à-dire qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors, bon, par exemple, l'allongement de la scolarité obligatoire, il est tout à fait manifeste qu'elle était tout à fait favorable aux filles. Donc, ce qui est obligatoire, à partir de ce moment-là, les parents ne pouvaient plus dire « Oui, mais toi, c'est pas la peine que tu ailles encore à l'école à 18 ans, tu vas quand même tout simplement te marier. » Donc, tous les arguments des parents, tous les arguments individualisés, tous les arguments sur les filles tombaient. La scolarité est obligatoire. Filles comme garçons vont à l'école jusqu'à tel âge. Qui en bénéficie ? Les filles. Qui fait un énorme rattrapage à ce moment-là ? Les filles. Qui se donne la peine de choisir de beaucoup meilleures études à ce moment-là ? Les filles. Donc, nous avions là un très bon cas d'aménagement collectif et obligatoire. Alors, évidemment, c'est un peu facile de notre part parce que tout le monde le trouve intéressant, cet aménagement collectif et obligatoire, mais il faut toujours prendre des arguments intéressants que tout le monde a trouvé bien pour valoriser un peu ses thèses. Hein. Donc, il faut trouver des choses que tout le monde reconnaît comme étant, au fond, pour finir, un grand progrès social. Alors qu'évidemment, vous savez bien qu'au début du siècle, la scolarité obligatoire était fort contestée par le monde, la bourgeoisie. Alors nous avons vu aussi les effets de la réduction de la durée hebdomadaire du travail. Donc c'est un aménagement collectif. Alors en Belgique, la durée légale du travail est encore toujours 40 heures par semaine. Mais la durée conventionnelle, donc selon les décisions en rapport, vous savez ce que c'est que les conventions entre patrons et travailleurs et syndicats, est de loin inférieure. Et nous avons remarqué qu'elle était la plus basse dans les secteurs les plus féminisés. Et les syndicats nous disaient, mais oui, au fond, les femmes demandent assez bien la réduction du temps de travail collectif. Et donc, dans les secteurs des commerces, etc., on est arrivé très vite à avoir 36 heures dans les conventions et tout ça. Et un autre effet que nous avons remarqué sur les réductions collectives du temps de travail, c'est qu'elles égalisaient la durée hebdomadaire de travail des hommes et des femmes. Là, ça veut dire très curieusement que les femmes avaient des comportements individuels qui étaient déjà en dessous de la durée conventionnelle et que par conséquent, quand la durée conventionnelle se mettaient à leur niveau, elles y restaient, mais que les hommes redescendaient. Et donc le rapprochement, il y avait l'écart entre la durée du travail des femmes et des hommes diminuait, et ça dans presque tous les pays de la communauté, quand on a une réduction conventionnelle hebdomadaire de la durée du travail. Donc voilà une deuxième mesure que personne ne conteste, sauf les patrons parce qu'elle est coûteuse, mais je veux dire, on prend une mesure de réduire le temps de travail pour tout le monde. À ce moment-là, les hommes dans les syndicats sont d'accord s'ils l'obtiennent. Et pour finir, ça améliore l'égalité homme-femme. Hein? Donc, c'est très important de retenir des choses comme ça. Alors, nous avons eu toute une discussion, je ne vais pas allonger non plus, sur la question de l'aménagement de l'âge de la retraite aussi, qui est encore tout à fait en cours et d'actualité pour l'instant en Belgique. Mais nous avons vu que dans les mesures de pré-retraite liées à la crise, nous avions exactement le même phénomène que dans celui dont je viens de vous parler, congé éducation et interruption de carrière, c'est qu'il y avait des formules de pré-retraite très bien payées et qui étaient des formules où 85% des hommes bénéficiaient de ce type de convention-là, et des formules de pré-retraite où on perdait parce qu'on partait à la retraite plus tôt, et qui étaient des formules où se trouvaient, très curieusement, 80% des femmes. Donc, chaque fois qu'une mesure est présupposée, si je puis dire, sexuée dans sa répartition, là, vous pouvez savoir d'avance que le type de couverture financière de la mesure sera tout à fait différent.
Vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Nous écoutons une conférence donnée le 15 mai à Genève dans le cadre du colloque organisé par le Collège du Travail, Travail familial et domestique, quelle valorisation. Après nous avoir parlé des mesures préférentielles en Belgique et dans des pays de la communauté européenne par rapport aux femmes et montrer comment ces mesures en fait discriminent les femmes plus qu'elles ne poussent à l'égalité, Edwige Pimans-Poulet qui nous parle d'une enquête qui a été menée par l'Université des femmes de Bruxelles dans les pays de la communauté européenne sur le partage des tâches, nous parle de l'importance des équipement collectif pour diminuer le travail domestique des femmes.
Que la question des équipements, non seulement en crèche, garderie, mais en parascolaire la gratuité de ces équipements-là a un effet absolument direct sur l'égalité homme-femme, en ce sens que dans chaque famille, la femme se sent tenue de payer et de s'arranger pour la garde des enfants. Donc, si vous rendez la crèche gratuite, c'est, concrètement, ça va être la femme qui ne va pas payer la crèche. Donc, nos exigences n'est pas seulement d'avoir des crèches, il nous faut qu'elles soient gratuites. Or, dans tous les pays de la communauté, il y a un cap des enfants de 0 à 3 ans qui est extrêmement coûteux. Et puis, éventuellement, après, avec la scolarité, début de la scolarité obligatoire, ou chez nous, en Belgique, ça commence à 3 ans, avec les jardins d'enfants, ben, c'est gratuit. Et alors, toutes les femmes, qu'elles travaillent ou pas, elles mettent toutes leurs enfants. Hein. Les femmes au foyer nous disent toujours qu'elles, elles élèvent leurs enfants, mais là où elles peuvent les mettre gratuitement, elles y vont au moins aussi rapidement que nous pour mettre leurs enfants. Et j'ai vu que chez vous, c'était exactement pareil, que dans les crèches, il y avait autant de ménagères qui mettaient leurs enfants que de travailleuses. Chez nous, dans les crèches, c'est pas possible, parce qu'il y a une réglementation qui donne la priorité, comme la couverture est très insuffisante, donne la priorité aux femmes travailleuses. Mais à partir du jardin d'enfants, 3 ans, 95% des enfants y sont en Belgique. C'est le pays le mieux gardé pour les enfants de 3 ans. Et c'est gratuit. Avant, c'est très difficile, et comme dans la plupart des pays de la communauté. Et ici, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que là, la communauté s'apprête à faire... une directive ou au moins une recommandation sur les modes de garde des enfants. Alors, nous avons aussi étudié les inégalités dans l'utilisation non professionnelle du temps. Donc, l'utilisation non professionnelle du temps, nous sommes repartis à l'envers, si vous voulez, voir ce qui se passe à partir de ce qui se fait à la maison. Alors là, je vous ai dit, le volume de temps libre se modifie avec le mariage. Le loisir, la nature des loisirs des femmes se modifie également avec le mariage. Encore une fois, donc j'incrimine beaucoup, moi, la structure du mariage plutôt que du rapport homme-femme, parce que le temps libre est globalement égal en durée pour les garçons et les filles célibataires. Le choix des activités de loisirs est assez différencié apparemment pour les garçons et les filles célibataires. Mais de toute façon, généralement, ce que les femmes préféraient faire quand elles étaient célibataires tombe quand elles se marient. On va éventuellement trouver une activité commune après le mariage, mais il est rare que les femmes gardent ce qui était leur goût personnel avant le mariage, qu'elles arrivent à le garder après le mariage comme activité de loisir à partager. Ce qui indique la faiblesse de notre potentiel dans le partage. Je veux dire, de notre pouvoir de marchandage. Donc, ça veut dire que nous pouvons éventuellement, les uns et les autres, refuser, le mari et la femme refuser de faire quelque chose que l'un et l'autre n'aiment pas, mais très souvent, la femme va se mettre à partager l'activité que le mari aime, et il est très, très rare que la femme arrive à faire partager l'activité qu'elle aime. Vous comprenez la différence, hein? Donc, il n'y a pas de... Quoi ? Ça ? Oui, sacrifice, enfin, oui, ou la possibilité même de convaincre l'autre que son goût est intéressant et serait une découverte pour lui, enfin. Mais la question du partage des tâches, alors ça, je crois que nous devrions analyser ça beaucoup plus finement aussi. Je pense qu'on met trop tout dans le type, dans le travail ménager. Je pense qu'il faut distinguer dans le travail ménager le travail... un travail qu'on est obligé de faire pour celui qui ne peut pas le faire, c'est-à-dire pour les enfants, c'est tout à fait différent, celui-là doit être partagé. Le travail que les deux adultes doivent faire pour s'auto-entretenir, il me paraît qu'à la limite, il ne faut pas le discuter, mais il doit être effectivement, il n'y a aucune raison qu'il y ait un transfert au sein du couple. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi nous irions demander à l'État de payer le fait que nous devons nous laver les dents et laver notre propre linge. Enfin, je veux dire, tout ce qui est de faire notre propre repas. Le problème est un peu différent quand on le fait pour des personnes qui ne peuvent pas ou plus, pas encore ou plus le faire, hein, personnes âgées et les enfants. Mais donc, entre adultes, c'est un peu différent. On doit faire très attention de ne pas tout mélanger. Mais aussi, ce que je constate dans presque toutes les études, c'est qu'on en fait un espèce de tout et qu'on ne constate, on ne voit pas l'évolution au cours de la formation du couple, au cours de l'avènement des enfants. Par exemple, à mon avis, l'étude du rapport entre la natalité et le partage du travail est une chose fondamentale à faire, et je ne suis pas du tout certain qu'on n'a pas toujours tourné, qu'on n'a pas toujours raté la raison majeure de la diminution de la natalité, qu'il n'y a pas de partage dans la charge des enfants. Je ne sais pas pourquoi cet argument ne se trouve presque jamais. Moi, je l'ai vu une fois exposé à un colloque sur la famille en France il y a 5 ans, mais plus personne n'en a. On a vite supprimé cette réflexion-là, parce que c'est le travail professionnel de la femme. C'est des tas de trucs, mais ce n'est jamais le problème du partage de la charge des enfants qui est en cause. Or, si on analyse très finement, on constate un certain nombre de choses très curieuses dans le partage entre hommes et femmes du travail ménager. Il y a le partage, je vais vous dire comment il va le mieux, c'est quand le niveau de formation de la femme est très élevé, quand elle a un travail à l'extérieur, quand elle s'investit très fort dans son travail. Il ne suffit pas d'avoir un travail à l'extérieur et de revenir en disant « moi, j'en ai rien à faire, mon travail, etc. » Il faut au contraire montrer que le travail à l'extérieur vous passionne. Ça intimide très fort l'homme qui se sent un peu, à ce moment-là, obligé de plus faire à la maison. Mais je connais énormément de femmes qui, au contraire, affirment ce que j'appellerais leur féminité en disant, même quand ce n'est pas vrai, qu'elles ne sont pas intéressées par leur travail professionnel. C'est une bêtise du point de vue du partage du travail ménager. Quand le niveau socio-économique du couple est très élevé, je crois qu'il y a quelque chose de très curieux qui se passe. Enfin, de toute façon, il semble qu'on arrive plus à faire prendre des responsabilités par un homme quand les deux conjoints sont d'un niveau socio-économique universitaire. Alors, ce qui est tout à fait... Quand la durée du couple est récente, ça veut dire que les hommes partagent au début de chaque couple. Alors moi, j'ai rencontré des Danoises qui disaient que c'est pour ça qu'elles changeaient tout le temps de couple, parce que c'était la meilleure manière pour elles d'avoir un peu de partage. Je crois que c'est une bonne réflexion à faire également. Et puis alors, chose tout à fait extraordinaire et qui revient à ce que je disais il y a un instant, le partage est inversement proportionnel au nombre d'enfants. Donc l'homme partage beaucoup plus volontiers quand il n'y a pas d'enfants, mais quand il y en a un, encore tout juste, et deux, trois, c'est tout à fait fini. Et donc ça veut dire très concrètement qu'il partage, pas quand on en a besoin évidemment, hein, donc pas quand il y a une grosse charge de familiale et ménagère. Mais tout ça, vous comprenez que nos analyses pour le moment ne sont pas du tout suffisantes par rapport à ça, parce qu'elles ne mettent pas le doigt sur les choses importantes, et elles ne mettent pas le doigt notamment sur ce rapport à l'enfant qui est tout à fait particulier. Alors j'allais dire, peut-être que nous devons arriver à un moment donné à avoir des espèces de contrats. Nous voulons tous les deux un enfant, mais ça va impliquer quoi? Quel est le volume total d'heures d'enfant, etc.? Comment est-ce que nous allons nous partager ces heures d'enfant? Et pas croire que spontanément ça va venir. On croit que l'homme va spontanément s'y mettre parce qu'il s'y mettait quand il n'y avait pas d'enfant, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Alors, la demande d'égalité dans le couple, ici vous avez un Suisse qui a commencé à étudier ça pas mal quand même, Keller Hals, la demande d'égalité dans le couple et la demande d'égalité dans la vie professionnelle est très importante. Il n'est pas évident que les femmes demandent. Il est possible que les femmes se plaignent beaucoup, mais il n'est pas évident que leurs exigences d'égalité soient très grandes, qu'elles soient très blessées par la non-égalité dans le couple et dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, très souvent, il y a un peu de peur. Quand on met le doigt sur des grandes inégalités professionnelles, on a quand même des réactions. Les femmes sont tellement accrochées à leur travail qu'elles disent « Oui, mais si maintenant, vous, avec le syndicat, vous arrivez à soulever ça, alors nous, on est dehors et c'est fini. » Et nous avons eu quelques expériences de travailleuses qui ont accepté de mener un combat remarquable sur un problème d'égalité, mais qui effectivement étaient en chômage et n'ont pas été réintégrées dans leur entreprise après. Donc c'est vrai qu'on hésite un peu hein, à faire ça, il faut vraiment être des martyrs de la cause. Mais donc dans le couple, moi je ne suis pas sûre que, peut-être que nous nous plaignons beaucoup dans des beaux cahiers « ménage-toi », etc., mais je ne suis pas sûre que notre besoin d'égalité est tellement fort que nous ne le supportons pas. S'il est très fort, à mon avis, ça entraîne effectivement le divorce. Et ça, c'est une des critiques que je fais aux théories de Keller Hals, c'est qu'il estime que l'égalité effectivement entraîne le divorce, mais parce que lui considère qu'évidemment les hommes ne vont pas l'accepter. Il ne s'est jamais posé la question, il ne se dit pas le divorce vient du refus d'égalité chez l'homme. Mais il constate bien qu'il y a une beaucoup plus grande demande d'égalité chez les femmes aussi en fonction du niveau. Donc toutes les mêmes catégories plus ou moins que celles que nous disions tout à l'heure. Une demande d'égalité dans le couple est d'autant plus grande que la femme a une conception d'elle-même élevée. Donc vous avez parlé de la dignité du travail ménager, mais j'allais dire, il y a plutôt la dignité de soi. Si on estime qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'égalité au sein du couple, on va avoir une position beaucoup plus nette pour analyser l'ensemble des choses. On a dit, on a fait la proposition suivante, on a dit, on voudrait que chaque travailleur au début de sa carrière professionnelle dispose d'un volume de temps libre, payé complètement par la sécurité sociale comme le congé éducation, donc remplacement du salaire. Ce volume de temps libre, mettons, moi je disais qu'il soit 2 ans, enfin j'avais fait un peu des estimations à partir du chômage, etc. Mettons que ce soit 2 ans de temps libre, eh bien chacun l'utilise comme il veut. Et après tout, chaque patron, chaque employeur, il se trouve devant des travailleurs, hommes ou femmes, qui vont de toute façon, qui le menacent d'utiliser leur temps libre, leur crédit de temps libre, leurs 2 années de temps libre, hein. Donc, il ne va pas se dire, « Ouh là là, moi, engager des femmes, elles vont de nouveau me poser des problèmes d'interruption de carrière, ou bien des choses comme ça, ou bien dire, « Ah, elle prend son interruption de carrière, c'est de nouveau une femme. Hein? » Donc, tout le monde a le même paquet. Alors, à partir du moment où tout le monde aurait le même paquet, payé de la même manière, s'il n'a pas été consommé au cours de la carrière, on part 2 ans plus tôt à la retraite. Donc, il y a une espèce d'obligation d'utiliser ces 2 ans au cours de la carrière. Bien entendu, nous, on demandait qu'on remplace par un autre employé, évidemment un chômeur ou un autre travailleur, ce qui reviendra au même du point de vue du chômeur. De telle sorte, si vous voulez, que ça aboutisse à une réduction du temps de travail sur la durée de la carrière. Ce serait obligatoire, ce serait égalitaire, ce serait payé de la même manière, donc il n'y aurait pas, ce ne serait pas un endroit où se précipiteraient les femmes. Et alors, après tout, moi je me dis, si les femmes utilisent ce crédit de temps libre pour s'occuper des enfants et les hommes pour construire leur maison ou pour s'entraîner pour un sport ou pour faire je ne sais pas quoi, au fond, ça ne change, l'égalité sociale reste. Le type de couverture de rémunération est le même pour tout le monde. L'égalité dans la vie professionnelle est la même pour tout le monde. Est-ce que c'est grave, après ça, que les femmes aient une préférence d'utilisation pour s'occuper des enfants et les hommes pour autre chose? Moi, personnellement, à ce point de vue-là, je dis non. Du moment que ces différences d'utilisation du temps ne se traduisent pas par des inégalités sociales et économiques, eh bien, c'est tout à fait. Je veux dire, ça, c'est le point où la différence est tout à fait n'a pas de conséquences néfastes pour l'ensemble des femmes.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Nous écoutions la conférence donnée par Edwige Puman-Poulet de l'Université des femmes de Bruxelles dans le cadre du colloque organisé par le Collège du travail, la travailleuse à domicile, le travail à domicile et familial, quelle valorisation, avec cette proposition donnée donc en Belgique et qui est suivie, qui est une proposition pour toutes les communautés européennes de donner un crédit de temps libre pour tous travailleuses et travailleurs de 2 ans à prendre comme ils le veulent, à quel moment ils le veulent, selon quel type d'organisation au cours de leur carrière. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, dans quelques instants, la suite de notre programme.
J'en ai assez d'être ta copine, une sur laquelle tu peux compter, une anodine, une à qui tu peux faire confiance. Pouvoir y arriver, je veux être une gaze, briser ton cœur, à le recoller, arriver 2 heures en retard, pendant que tu bloques le standard, on doit pouvoir se faire apprécier, se faire désirer, on doit pouvoir se faire aimer, on doit pouvoir. J'en ai assez d'être ta mère, ta petite sœur, ta bonne enfant, ton infirmière. Je veux sans raison que tu t'inquiètes de mes humeurs, de mes conquêtes. En me moquant, je veux que tu m'invites au restaurant sans même penser qu'on est le 30, faire des achats exorbitants et après n'être pas contente. Pour être aimé, inventer plein de rendez-vous pour te rendre encore plus jaloux. On doit pouvoir se faire apprécier, se faire désirer, on doit pouvoir se faire aimer, on doit pouvoir.